L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Francine Méran, psychiatre de profession, très investie dans la transmission de la mémoire et dans le processus de génocide, et en particulier en direction des scolaires, avec qui elle mène des projets baptisés Valise Mémoire, dont nous avons parlé déjà sur nos ondes. Francine Méran, bonjour.
Bonjour Valérie, merci de m'avoir invitée.
Mais c'est toujours un plaisir, de par les propos que vous allez tenir et de ce message si important que vous transmettez. Alors nous nous intéressons aujourd'hui à une table ronde d'échange et de réflexion organisée dans le cadre du 81e anniversaire de la libération des camps, une table ronde sur la transmission du passé pour l'avenir de nos démocraties, et ça se passera le dimanche 25 janvier 2026 à 14h30, et ça se passe à la chapelle de la rencontre. Alors un passé remis en cause par certains pour argumenter un narratif de propagande, le négationnisme est toujours présent selon vous?
Le négationnisme est toujours présent, et ce que j'ai voulu par ce débat, j'ai voulu inviter, d'une part par rapport à cette situation actuelle et cette propagation qui rend les interventions sur la Shoah et sur le passé difficiles dans les écoles, je voulais montrer que des enseignants, par quel mécanisme, ils arrivent quand même à intervenir et ils continuent et ils ne lâchent pas prise. Et c'est pour ça que j'ai voulu inviter des enseignants qui vont chacun à leur façon montrer comment eux continuent la transmission au fil des années. Donc c'est tous des enseignants investis de longue date, pas seulement depuis le 7 octobre, mais bien avant, mais qui du coup ont l'expérience de ce qui se passait avant le 7 octobre, toutes les années qui précédaient, et aussi depuis le 7 octobre. Et c'est aussi un débat pour montrer qu'on peut encore faire quelque chose. Mon idée c'était de donner une image positive, qu'il y a des enseignants qui y croient, qu'il y a des enseignants qui continuent et qu'il y a des élèves du coup qui continuent à être informés correctement.
La transmission par le biais de l'éducation nationale reste donc aujourd'hui essentielle, et pourtant on parle souvent aujourd'hui d'autocensure ou de peur de certains enseignants. Et pourtant, cette transmission, la mémoire, la pédagogie ne peut passer que par l'éducation nationale.
Ça peut passer que par ce biais, mais je pense que ça peut passer que par ce biais et par des projets, pas juste par des cours. J'ai encore entendu récemment une émission sur, au niveau radio qui expliquait que la durée des heures données à la Deuxième Guerre mondiale est actuellement de 3 heures sur l'année. En 3 heures, on parle de la guerre, on parle de la Shoah, on parle du génocide des Tziganes. Enfin, on ne peut pas aborder la question du nazisme. Et c'est à propos d'un film, d'un petit film, un court-métrage, d'un quart d'heure, et qui est extraordinaire, d'un inspecteur d'éducation nationale qui corrige une enseignante parce qu'elle est trop investie dans la Shoah. Et donc, ce film est vraiment... il s'appelle L'Inspection. On le trouve sur Internet. Et ça montre vraiment la problématique entre ce que l'éducation nationale demande et la liberté qu'a l'enseignant et la difficulté que l'enseignant a. L'inspecteur lui dit « Vous vous y attachez trop, je ne sais pas pourquoi vous êtes tellement attaché à la Shoah. » Donc c'est important de montrer qu'il y a quand même des enseignants qui n'ont rien à faire du système, je suis désolée de dire ça, mais qui malgré tout continuent et qui font des projets, qui passent des heures en dehors bénévoles, bien sûr, parce qu'ils ne sont quasiment pas payés pour ces heures, mais pour s'engager, pour qui? Pour nous. Enfin, pour nous tous, pas pour eux, pour les élèves et pour l'avenir.
Les élèves, justement, vous allez à la rencontre des élèves, vous menez des travaux, des projets artistiques, Valise Mémoire ou alors Les Masques, où ils peuvent, et vous faites toujours un petit pitch d'introduction, où vous parlez du mécanisme de génocide, comment les choses se mettent en place. C'est quoi votre retour? Comment c'est accueilli par les élèves?
Alors c'est variable selon les élèves et ça dépend beaucoup de l'enseignant. Si l'enseignant lui-même il est investi, le message passe très bien. Si l'enseignant, parfois même avec des enseignants investis, je me rappelle au lycée au Berlin, le message il n'est pas bien passé. Enfin voilà, c'était un public musulman et objectivement je pense que très très peu d'élèves de la classe où je suis intervenue un an entier, c'est-à-dire beaucoup d'heures de présence, un voyage scolaire, enfin beaucoup de choses, partage avec eux, ça n'a pour moi pas donné grand-chose. On va dire quasi rien.
Parce que vous travaillez également sur l'émigration. Ouais. Et là où on se dit qu'un public musulman avec des parents migrants, il pourrait y avoir effectivement une corrélation.
Alors ça dépend. C'est pour ça que je dis que ça dépend de l'enseignant. Oui. L'enseignant n'a pas du tout travaillé sur cet axe-là. Moi, je propose toujours les deux axes parallèles. Je propose vraiment toujours qu'on travaille à la fois sur les migrations familiales, parce que c'est façon de les intéresser, et aussi, pas seulement de les intéresser, c'est aussi une façon de dire votre histoire m'intéresse, intéressez-vous à l'histoire d'autres. Voilà, et qu'on a tous des difficultés, vous avez les vôtres, et on ne les nie pas, ces difficultés. Et puis, on s'inscrit dans sa propre histoire, et donc accepter aussi l'histoire des autres. Donc, quand ça fonctionne sur les deux côtés, moi, je trouve que ça fonctionne bien. Et du coup, il y a des valises ou des masques qui sont des différents bords. Mais là, l'enseignante, elle avait décidé un sujet bien précis, travailler avec des musulmans sur les victimes alsaciennes, juives et résistantes. Et je pense qu'ils n'en avaient rien à faire. Globalement, 80% de la classe n'en avait rien à faire. Ce qui fait que c'était assez compliqué ou, disons, assez décevant parce qu'on sentait que ça ne prenait pas. En fait, ça n'a pas pris. Par contre, il y a des endroits où, avec le même public, il y a eu des prises, mais parce que les enseignants eux-mêmes... Et cette enseignante est une enseignante hyper investie, donc je ne veux pas dire... Je ne la mets pas en cause. Mais peut-être que son message passe plus très bien. Elle est proche de la retraite, elle est à bout de nerfs, épuisée, et peut-être que le message passe moins bien parce qu'elle est trop fatiguée aussi, hein, et qu'elle a fait ça des années durant. Hein, donc c'est quelqu'un de très engagé. Mais avec les élèves, ça n'a pas bien pris.
Donc la difficulté d'investir les élèves quand c'est quelque chose, enfin quand c'est un message de proximité, là en l'occurrence, c'était à la mémoire des victimes alsaciennes, mais encore après, plus grandement, de parler du 81e anniversaire de la libération des camps, ça leur parle ça? Ça
je
paraît lointain,
si
c'est dans le temps,
parle.
C'est ouais, en noir et blanc, quelque part.
Moi, je ne parle pas de ça sous cet angle-là. Moi, je reste vraiment très proche des histoires individuelles. Mon idée, c'est, je parle de visages d'enfants, je parle d'enfants qui ont été déportés, qui ont eu des expérimentations, de tziganes. Je parle du racisme que ces tziganes ont vécu pendant la dernière guerre et après, dans les camps, ce qui s'est passé pour eux. J'élargis ça aux autres génocides, parce que pour qu'on comprenne que c'est une question humaine dont je parle. Et les élèves sont pris par les destins humains, plus que par l'histoire elle-même. Après, quand il me pose des questions au niveau historique, je m'en remets à l'enseignant parce que je ne suis pas très forte sur le terrain historique. Je préfère pas m'approcher de ça. Franchement, je fais des erreurs. Donc, je reste vraiment sur le terrain humain et je pense que c'est sur ce terrain humain. Par contre, l'enseignant, il faut qu'il fasse le travail d'histoire parce que s'il n'y a pas de travail d'histoire avec l'empathie, on ne peut pas travailler seulement. Il faut vraiment qu'il y ait un travail historique à côté. Mais pour donner un exemple d'une autre classe, je suis en plein démarrage d'intervention au Stockfeld. C'est pas le collège le plus simple. De ce qu'elle m'a dit, l'enseignante, c'est le plus problématique d'Alsace et le 5e dans la liste des plus problématiques de France. Elle m'a dit ça la semaine dernière. Le message n'est pas passé chez la moitié de la classe. Moi, j'ai rien remarqué. J'ai eu l'impression que ça passait. Il y en avait qui dormaient, qui dessinaient. Bon, c'est pas grave. Mais il y en a où c'est très, très bien passé. Ils ont été hyper sensibles. Et je vais y retourner. Et on va faire des masques. Et on va retravailler pour que ça passe mieux. C'est-à-dire que la deuxième fois, on va retravailler ça mieux en revenant à leur histoire personnelle. Mais encore faut-il qu'ils aient envie de parler de leur histoire personnelle. C'est pas sûr. Mais il y avait des tziganes, des élèves gitans, il y avait d'autres, un qui parlait très très mal, qui était roumain, qui parlait très mal français, qui s'est passionné pour le sujet, qui est intervenu je ne sais pas combien de fois, qui avait des choses à raconter. Donc il y a quand même, il faut regarder les élèves chez qui ça passe. Et puis après, ces élèves-là, ils vont peut-être aussi transmettre quelque chose de leur côté. Donc on ne sait pas les retombées que ça a par la suite. Alors les enseignants que je vais faire venir, je pense plus à Christian Savary qui vient de Coutances. Christian Savary, il a travaillé 20 ans avec des élèves. Et ces élèves sont tous des porteurs de mémoire. Après, chaque année, il y a à peu près 100 élèves qu'il emmène avec lui. Ce n'est pas dans une classe, c'est une association qu'il avait créée. Elle a duré 20 ans, cette association. Et ça a diffusé partout, par les élèves. Donc il faut aussi voir l'impact que ça a après. Hein.
Les intervenants, justement, donc Sandra Butch, professeure d'histoire et politique à Fribourg. Vous continuez, vous, ce partenariat franco-allemand?
Oui, on continue ça, oui, parce que c'est intéressant, d'une part, d'essayer déjà, en dehors de la question de la Shoah, de re-rapprocher les Allemands et les Français qui ont été quand même éloignés par la période du Covid. Et depuis le Covid, il y a quand même beaucoup moins de liens qu'il y en avait avant, même s'il n'y avait pas suffisamment déjà avant. Donc oui, c'est important. Ce n'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile parce que cette année, par exemple, je n'ai pas d'école allemande qui participe au projet. On a fait une conférence allemande. Là, il y a une enseignante qui va venir, mais on n'est pas arrivé à mobiliser des enseignants de Kiel, par exemple, ni de, je ne sais plus quelle autre ville qui avait participé, aucun. Ils restent sur leur terrain, on utilise les Stolperstein, c'est bon, on fait quelque chose. Mais les Stolperstein, ça ne suffit pas. C'est bien, ça ne suffit pas.
Ça fait partie de l'ensemble.
C'est nécessaire, ça de ramène des histoires individuelles. Ouais. Mais si tous les ans on fait les Stolperstein, ça ne suffit pas. Il faut que l'élève soit mobilisé, lui. Enfin, moi, je pense qu'il faut de la création chez l'élève.
Mais chaque année, ce sont d'autres élèves qui vont participer. Ouais. Les élèves qui ont fait les Stolperstein une année, l'année d'après,
ouais,
ce sont de nouveaux élèves.
Mais ce qui est bien, c'est quand il y a une pause de Stolperstein, parce qu'il y a un vrai investissement. À ce moment-là, ils créent quelque chose, soit par une pièce de théâtre, soit en chantant, soit en créant. Mais s'ils reçoivent passivement des informations, moi, je m'en rends compte, ça ne laisse pas de traces suffisantes.
Alors, on retrouvera également Raïssa Smirnov, qui est professeure de la section russophone au lycée des Pontonniers, très investie également auprès de ses élèves que vous connaissez.
Alors, Raïssa, elle est exceptionnelle parce qu'elle travaille depuis qu'elle est arrivée à Strasbourg. Elle est arrivée à Strasbourg depuis l'Allemagne, depuis la Russie en Allemagne, puis à Strasbourg. Et elle a créé la section russophone. Et son objectif, c'était de transmettre les valeurs démocratiques aux élèves. C'était l'objectif depuis le départ. Elle a eu libre choix complet pour organiser cette section en fait de Pontonniers, et elle a lutté tous les ans contre l'homophobie, contre l'antisémitisme et pour les valeurs démocratiques, et elle y a réussi. Vraiment, c'est une réussite incroyable. Les élèves, ils sont métamorphosés. La première année, ils arrivent en seconde, c'est une grande partie problématique. Ils arrivent en terminale. D'abord, ils font tous des études alors qu'ils viennent tous des cités autour. Mmh. Et ils ont tous des valeurs démocratiques pour la plupart. Vraiment, ils sont investis. Il y en a qui chantent en yiddish alors que c'est des musulmans. Elle arrive à faire des choses incroyables. Il y a des témoignages chaque année. Il y a des jours de la mémoire. Elle fait venir, oui, plusieurs témoins. Moi, j'interviens. Ça fait 3-4 ans que j'intervenais. On faisait des masques ou autre chose. On a fait des valises. L'année dernière, plusieurs valises. Et cette année, il va de nouveau y avoir quelque chose. Elle a pris sa retraite, donc là, elle est à la retraite. C'est la fin de sa carrière et elle va continuer exclusivement les projets dans l'école. Et elle est remplacée par une enseignante qui est aussi investie qu'elle, qui s'appelle Aïssa et qui est russe, juive, et qui, elle, veut continuer dans la lignée de Raïssa.
On retrouve également Laurence Jost-Linhart, professeure d'histoire à Bouxwiller, l'auteur du livre « Kaddish pour un prof » qui a donné lieu également à un petit documentaire réalisé avec ses élèves. Donc Laurence Jost-Linhart qu'on connaît, très investie aujourd'hui pour sa transmission de mémoire. Le titre de cette table ronde, « Comment transmettre le passé pour l'avenir de nos démocraties ?» Quel est le danger aujourd'hui, selon vous, qui pèse sur nos démocraties ?
Qu'on considère ce passé comme quelque chose de révolu qui fait partie de l'histoire et qu'on ne le prenne pas en compte comme quelque chose qui nous met en question par rapport à notre humanité, à tous. Et il est important de transmettre non pas ça comme quelque chose d'historique, mais comme quelque chose qui vient symboliser le danger que peut faire courir l'homme à l'homme. Et c'est ça ce qu'il faut transmettre aux élèves pour qu'on se batte contre ça.
Cet après-midi de table ronde, donc je le rappelle, c'est à la chapelle de la rencontre, c'est juste en face de la clinique Réna. Donc il y aura des élèves, des enseignants, les intervenants de la table ronde. C'est ouvert à tous.
C'est ouvert à tous et il faut savoir qu'il n'y aura pas que ces enseignants-là qui interviendront, parce qu'il y aura aussi des enseignants dans la salle qui m'ont dit qu'ils viendraient pour parler de leur façon de transmettre. Et en l'occurrence, il y aura Fazia Dergam qui est une enseignante musulmane de Oberlin, et qui viendra elle aussi intervenir. Il y a eu quelqu'un qui viendra de Mulhouse aussi pour intervenir. Donc ce sera vraiment un échange. Et puis moi j'aurais souhaité que ce que Christian Savary de Coutances a fait en créant cette association Les Sentiers de la Mémoire donne une inspiration ici pour créer quelque chose qui est extrascolaire. C'était totalement extrascolaire et pour que ça inspire d'autres.
Francine Méran, bénévole, donc je le dis, artiste de la mémoire, vous êtes psychiatre de profession. Mmh. C'est quoi votre moteur aujourd'hui dans cet investissement de dingue que vous mettez au profit des élèves et de la mémoire ?
Déjà, moi, ça me nourrit parce qu'il y a plein de rencontres, il y a plein de gens enthousiastes. Ça donne du baume au cœur de voir que les gens sont investis, alors que franchement, la profession d'enseignant aujourd'hui, elle est quand même pas simple et pas très reconnue, pas assez reconnue. Et je vais, par exemple, pour donner juste un exemple d'une rencontre extraordinaire qui va donner un projet l'année prochaine, sont venus vers moi des enseignants de Saint-Louis, Donc l'année prochaine, on fera un très gros projet à Saint-Louis avec 5 enseignants, art plastique, histoire géo, un professeur de technique de luminaire qui va m'aider pour aussi mettre en place des projets à moi. Et ces gens-là ont construit un mur de la mémoire de 10 mètres de long dans l'école qu'ils vont investir tous les ans, eux et les autres enseignants, par des travaux de mémoire avec les élèves. C'est-à-dire qu'ils se sont engagés sur l'avenir, pas sur le présent. Et je trouve qu'aujourd'hui, on passe son temps à dire que l'avenir est péjoratif, l'avenir est noir. C'est important qu'il y ait des enseignants qui croient. Et c'est un jeune et un plus âgé. Donc, il y a un jeune aussi qui est empreint de cette mémoire.
Francine Mérand, merci beaucoup déjà pour votre message d'optimisme dont on a tous besoin aujourd'hui. Et donc, je rappelle, dans le cadre du 81e anniversaire de la libération des camps, vous organisez une table ronde. Ça se passe à la chapelle de la rencontre, une chapelle qui porte bien son nom. Et ce sera le dimanche 25 janvier.
Je voudrais juste rajouter, parallèlement, il y aura une exposition de travaux d'élèves, donc de valises mémoire, de travaux, quelques masques, et puis un certain nombre de céramiques que j'ai fait pour les enseignants, pour transmettre la valeur de l'enseignement, la valeur de la culture. Donc il y aura un certain nombre de céramiques et il y aura une série de plexiglas que j'ai fait lors d'un voyage scolaire avec Christian Savary, qu'il n'a jamais vu et qu'il va découvrir ce jour-là.
Merci Francine Mérand.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.